Nous sommes dans la dernière édition de notre série sur l'Église à redécouvrir. Et pendant toute cette série, on a regardé des noms, des termes utilisés pour parler de l'Église. On a eu beaucoup de choses différentes. Et donc, aujourd'hui, on va en regarder trois dernières. Le peuple, le temple et la Nouvelle Jérusalem. Bon, ce sont trois descriptions très diverses, n'est-ce pas? Mais qui nous apprennent des choses sur l'Église. Et les passages où on trouve ces termes se chevauchent et même se répètent. Par exemple, plusieurs des versets parlent à la fois du peuple de Dieu et du temple. Hein, donc, c'est assez mélangé. Donc, on va regarder la première, le peuple. Et donc, dans deux passages, Exode 29, 45, « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. » Et Jérémie 32, 38, « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Alors, lorsque je suis devenu équipier d'Agapé, c'était au dernier siècle, c'est le cas de le dire, j'ai suivi un cours biblique. Et il y avait quelque chose qui m'avait vraiment interpellé et qui est vraiment resté avec moi, c'est que dans ce cours, un thème est revenu que les théologiens appellent la promesse. Okay, c'est quelque chose dans l'Ancien Testament. Et les versets qui constituent cette promesse, c'est ça. J'habiterai, ils seront mon peuple, j'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu. C'est ça, la promesse. En fait, c'est le désir et l'intention de Dieu. D'ailleurs, chez nous, chez Agapé, on a notre brochure « Connaître Dieu personnellement » qui est une présentation de l'Évangile. C'est le premier point. Dieu nous aime et nous a créés pour avoir une relation personnelle avec lui. Quand nous partageons la bonne nouvelle avec quelqu'un, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Quand moi j'avais 15 ans, j'ai rencontré d'autres jeunes qui m'ont dit ça. Et ma réaction, c'était tout de suite, attends, Dieu, le Dieu, je peux avoir une relation personnelle avec lui, ça je veux. Donc cette mention du peuple, c'est bien plus que ça, c'est la promesse. C'est l'expression du désir de Dieu d'être en relation avec nous. Il veut que nous soyons son peuple et il veut être notre Dieu. Et c'est plus qu'une vague envie, c'est une affirmation. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et bon, dans ces deux passages de l'Ancien Testament, le peuple en question, c'est le peuple d'Israël. Okay, on peut poser la question, en quoi nous, chrétiens du 21e siècle en Europe, sommes-nous concernés par des passages qui parlent du peuple d'Israël? Bon, depuis les débuts de l'Église chrétienne, et on voit ça dans de nombreux passages du Nouveau Testament, l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, c'est le peuple de Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus besoin d'être ethniquement descendu du peuple d'Israël parce que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes intégrés au peuple de Dieu par notre nouvelle naissance. Et tous les théologiens chrétiens sont d'accord sur ce point. Alors, un passage où nous voyons ça très bien, c'est 1 Pierre 2, 10, « Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Alors, un aspect important du fait que l'Église soit le peuple de Dieu, c'est l'aspect communautaire. Chose intéressante, le passage ne dit pas « ils seront mes personnes », des individus. Non, le peuple. Le peuple, c'est un groupe, c'est l'ensemble des chrétiens. Alors, comme nous soulignons à juste titre l'importance que chacun fasse une démarche individuelle avec Dieu, il peut nous arriver un petit peu, parfois, de négliger cet aspect communautaire. Mais nous sommes le peuple de Dieu, pas juste les personnes de Dieu. Nous avons vu l'autre semaine la famille comme un terme qui s'applique à l'Église. Bon, une famille, c'est tout sauf individualiste, n'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas en train de dire que faire partie d'une église locale est obligatoire pour être sauvé. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis simplement que c'est normal, c'est standard de faire partie du peuple de Dieu et, je pense, de faire partie d'une église locale. Ok, deuxième terme, le temple. Pourquoi on décrit l'Église comme le temple ? À cause du bâtiment ? Non. Souvenez-vous, tout au long de l'Ancien Testament, le temple, c'est l'endroit où Dieu habite. C'est à cette époque, seuls les prêtres pouvaient directement être dans la présence de Dieu, dans une partie du temple, appelée le lieu très saint. Mais après Jésus, après sa mort et sa résurrection, ça change, ou je dirais plutôt, c'est mis à jour. Et d'ailleurs, l'un des passages le plus connu à ce sujet, c'est 1 Corinthiens 3. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. » Dieu habite en nous, chrétiens. Dieu n'est plus présent seulement dans un lieu géographique. Sa présence vient demeurer en nous. Alors, les prêtres, qui étaient les seuls à l'époque à pouvoir être dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ce rôle de prêtre n'a pas été aboli. Mais vous êtes un peuple élu, 1 Pierre 2, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Non, les prêtres n'ont pas été abolis, on a tous été promus prêtres. Nous, chrétiens, avons maintenant le droit d'être dans la présence de Dieu. Bon, encore une fois, avec ce terme, le temple qui est utilisé pour l'Église, ça parle à nouveau, la chose principale même, c'est notre relation avec Dieu. C'est une affirmation de notre relation personnelle. Le temple, c'est là où Dieu habite. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que Dieu habite en nous. Ok, troisième terme de ce matin, la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21:2. Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Alors, intéressant, Nouvelle Jérusalem, une mariée ? Curieux. La Nouvelle Jérusalem, c'est quelqu'un ? Ou quelque part ? Very bonne question. Peut-être les deux. Regardons ça. Qu'est-ce qui peut nous faire croire que déjà la Nouvelle Jérusalem, c'est quelqu'un, un personnage ? Dans ce verset, la Nouvelle Jérusalem est comme une mariée. Alors, on a vu l'autre semaine avec Olivier qu'on parle de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, comme l'épouse et, dans certaines versions d'ailleurs, la mariée du Christ. Ça voudrait dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est nous, les chrétiens. Alors, dans un certain sens, je trouve ça compréhensible. Parce que, bon, par exemple, quand on parle d'une ville, en fait, souvent, on veut dire les habitants. Si je dis « Paris, c'est une ville jeune », bah, ça veut dire que les Parisiens sont jeunes ou d'un état d'esprit jeune, parce que, bon, certains historiens pensent que Paris a été fondée vers 200 avant Jésus-Christ. Donc, la ville géographique est tout sauf jeune, n'est-ce pas ? Bon, voici un autre aspect qui va dans ce même sens. J'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes ». Alors, la tente, vous vous souvenez, c'était le temple portatif dans l'Ancien Testament, je pense avant la construction du temple en dur. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Voici encore une fois la promesse. Dieu habitera avec nous, nous serons ses peuples, et il sera notre Dieu. La Nouvelle Jérusalem, c'est là où Dieu habite. Et comme Dieu habite en nous, dans ce sens, la Nouvelle Jérusalem, c'est nous, les chrétiens. Mais je pense qu'on peut dire aussi que la Nouvelle Jérusalem, c'est un endroit. Alors, on continue un peu notre lecture dans l'Apocalypse 21, le verset 9. « Un ange s'adresse à Pierre. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Encore une fois, l'épouse de l'agneau. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Et elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées, 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Bon, donc, une ville rayonnante de beauté, avec une muraille et des portes comme les villes dans le temps. Alors, Pierre continue sa description, on ne va pas aller plus loin, mais il parle notamment des dimensions de la Nouvelle Jérusalem. Alors, si on calcule ça en mesure d'aujourd'hui, c'est un cube de quelque 2200 km de côté. Donc c'est gros. Et il y a toute la place qu'on pourrait vouloir. Et la Nouvelle Jérusalem, si je comprends bien, c'est là où nous habiterons éternellement avec Dieu. C'est donc le ciel, le paradis. Alors, est-ce que la description de l'Apocalypse, c'est la photographie exacte de la Nouvelle Jérusalem ? Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de symbolisme dans toute l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Il se peut que cette description serve surtout pour nous dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'endroit le plus merveilleux qui aura jamais existé. Tout ce que nous pourrions imaginer est bien pâle à côté. Dieu nous réserve un endroit ultra génial et notre cerveau humain d'aujourd'hui ne peut le comprendre que de façon très limitée. Peut-être, à mon avis, il faudrait plutôt se dire ça. Ok, et nous dans tout ça? Quelle importance pour nous à Ozoir en 2021 de ces trois façons de parler de l'Église, le peuple, le temple, la Nouvelle Jérusalem? Alors, premièrement, ces trois noms renforcent, on ne peut plus clairement, l'importance de notre relation avec Dieu. N'oubliez pas la promesse. Dieu nous a fait de nombreuses promesses tout au long de sa parole, mais je crois que celle-là, c'est la plus importante. J'aime beaucoup la manière dont c'est dit en Apocalypse. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Dieu est avec nous, il habite en nous déjà maintenant. Et il est important de chercher à approfondir notre relation avec Dieu. On a vu certaines choses de formation par rapport à notre relation avec Dieu aussi, avec ce que nous pouvons faire dans l'Église. Et vous avez beaucoup d'autres outils à votre disposition. Je n'ai pas besoin d'en énumérer d'autres pour vous, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, la promesse n'est pas « ils seront mes personnes et je serai leur Dieu ». C'est « ils seront mon peuple ». Ne laissez pas de côté, ne passez pas à côté de cet aspect communautaire de la vie chrétienne. Ensemble, c'est différent de chacun de son côté, même si on est nombreux. Ne laissez pas, d'ailleurs, la crise vous pousser à rester tout seul dans votre coin. Parce que c'est assez facile de faire ça, n'est-ce pas? Faites usage des outils dont nous disposons, même avant de pouvoir être déconfinés, à rester en contact avec les frères et les sœurs et d'autres personnes qui nous entourent. Aussi, un autre élément que j'aimerais partager, il y a un auteur chrétien que j'ai cité à plusieurs reprises, Peter Scazzaro, c'est un grand favori de Jeannette. Tu as lu quasiment tous ses livres, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous sommes en train d'étudier quelques-uns de ses livres avec des gens. Et lui dit une chose intéressante par rapport à nos relations avec d'autres personnes. Il dit « Aimer Dieu et aimer son prochain sont indissociables. On ne peut pas séparer, on ne peut pas surtout aimer Dieu et aimer très moyennement son prochain. Non, c'est pas possible. » Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup dans ses livres de l'importance de bien aimer. Et j'ai vu ça récemment, il donne trois questions qui vont nous interpeller et nous aident à voir, ok, est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Et je vais vous montrer un petit peu ces questions qui s'appliquent non seulement à nos relations avec les frères et sœurs, mais aussi avec nos relations avec tous les gens qui nous entourent. Alors, première question. Suis-je avec une personne? Suis-je vraiment présent? Ou est-ce que je suis distrait? Est-ce que je m'occupe vraiment de la personne que j'ai en face de moi? Est-ce que je l'écoute vraiment? Ou est-ce que je suis distrait? Est-ce que je suis occupé en train de planifier ce que je vais dire pour lui répondre? Ça, c'est un problème que j'ai moi. Ok, est-ce que je suis vraiment disponible? Est-ce que je donne toute mon attention à cette personne? Deuxième question. Est-ce que j'ai une attitude d'amour ou de jugement? Est-ce que j'accepte cette autre personne, même avec ses défauts, même si elle fait des choses qui m'énervent? OK? Ou est-ce que je suis en train de dire, ah oui, mais lui, il fait ceci, ça, oh non. Bon. Et troisième question. Est-ce que je suis ouvert ou fermé à l'idée de changer? Ma relation avec cette personne, avec ces personnes autour de moi, est-ce que je suis prêt à être interpellé? Est-ce que je veux bien être challengé dans mes attitudes? Est-ce que je suis au moins ouvert à l'éventualité que j'aurai à changer? Bon, tout autant de sujets interpellants pour nous, n'est-ce pas? Et j'aimerais revenir sur la Nouvelle Jérusalem. Nous passerons l'éternité dans la présence directe, physique, visible de Dieu. Et le passage de l'Apocalypse, c'est peut-être un petit peu comme une fenêtre ouverte à cet avenir. Alors, question. À quel point nous, chrétiens, aujourd'hui, devrions-nous penser à l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem? Et combien faut-il penser à la fin du monde, c'est-à-dire les événements qui vont tout juste précéder l'arrivée de Jésus et de la Nouvelle Jérusalem? Les avis des chrétiens sont partagés. Il y en a qui pensent qu'il faut étudier jusqu'au dernier petit détail pour comprendre complètement de A à Z à quoi ressemblera le paradis. Et pour ce qui est du retour de Jésus, certains pensaient à l'approche des 2 millénaires que c'était sans doute la fin du monde avec une date aussi importante. Et d'autres voulaient vraiment calculer le moment exact du retour de Jésus. Bon, d'autres chrétiens trouvent ces personnes un peu extrémistes. Donc ces chrétiens se disent modérés et se disent « on aura toute l'éternité pour apprécier le paradis. Ce n'est pas la peine qu'on cherche à savoir aujourd'hui à quoi exactement il ressemblera. » Surtout avec l'Apocalypse qui est aussi symbolique. Bon, je pense que la bonne position, c'est quelque part entre ces deux, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas la peine d'y penser. Je pense que c'est même un peu faire l'autruche. Jésus nous dit quand même d'être prêt pour son retour et pour l'arrivée et notre intégration dans la Nouvelle Jérusalem. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Donc je pense que nous avons besoin d'être prêts pour rencontrer le Seigneur. Que ce soit à la fin du monde, quand ça arrivera, on ne sait pas, ou plutôt lors de notre décès dans plus ou moins longtemps. Et ça veut dire quoi, être prêt ? Bon, un élément, c'est de s'approprier de l'assurance de notre salut. Pour nous, chrétiens, être sauvés, c'est une affaire conclue. Point. Nous pouvons être assurés que lorsque nous rencontrerons Jésus, il nous accueillera dans le paradis. Et je crois qu'on peut penser au moins un peu à ce que ça sera d'être avec Dieu pour toujours. Ça peut être encourageant. Et nous devrions également avoir un minimum d'attente que le retour pourrait être proche. Il faudrait tout de même penser, ne serait-ce qu'un peu, à mettre notre maison en ordre, n'est-ce pas? Donc, nos trois termes pour aujourd'hui, l'Église, le peuple, le temple, la Nouvelle Jérusalem, parle surtout de notre relation avec Dieu. Notre relation, tous ensemble, avec lui, aujourd'hui, pour l'éternité. Et je termine en revenant sur notre verset clé. D'ailleurs, on peut se réentraîner un petit peu si on le lit ensemble. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Prions. Seigneur, merci que nous sommes ton peuple. Tu as promis, nous serons ton peuple, tu seras notre Dieu. Amen.